Chers frères et sœurs, il ne vous aura pas échappé que jusqu'à ce soir, la campagne électorale est fermée, bouclée, achevée. Et donc, on peut se demander ce qu'il reste dans nos campagnes s'il n'y a plus de candidats. Alors, pour rafraîchir notre mémoire, 5 passages bibliques pour nous dire ce qu'il y a dans nos campagnes. Tout d'abord, dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, les versets 14 à 19. C'est dans l'histoire d'Abraham. Abraham et Sarah, son épouse, n'arrivent pas à avoir d'enfant et ils demandent donc à leur servante Agar d'avoir un enfant avec Abraham. Et puis finalement, Sarah a un enfant, Isaac, mais elle commence à être un peu jalouse de l'autre, Ismaël, et de sa mère, Agar. Alors elle demande à Abraham de s'en occuper. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Un peu plus loin, le chapitre suivant, en vérité, les choses se gâtent cette fois pour l'autre fils, Isaac. C'est au chapitre 22. Abraham va vers un lieu pour sacrifier son fils Isaac. Et je vous lis au chapitre 22, les versets 11 à 14. Il vient de ligoter son fils et il a pris le couteau pour lui trancher la gorge selon le rituel idoine. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est le participe vu qui est important puisque Ra'a signifie voir, pourvoir. Un peu plus loin, cette fois dans le livre de l'Exode, nous sommes avec Moïse qui vient de faire sortir le peuple du pays d'Égypte, autrement qualifié pays de servitude. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 23 que je vous lis les versets 20 à 23. Les Hébreux s'apprêtent à traverser le désert. Et c'est l'Éternel qui s'adresse ainsi à Moïse. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. » Livre suivant, livre des Nombres. Je vous ai prévu, il y avait juste un patateuc de livres, hein. Je ne vais pas prendre tous les livres bibliques les uns après les autres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 22, les versets 21 et 27 qui mettent en scène un prophète venu de l'extérieur d'Israël, un certain Balaam. Et au chapitre 22 du livre des Nombres, je vous lis les versets 21 à 27. Balaam, donc ce prophète étranger, se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Et puis, dans l'Évangile selon Luc, de l'autre côté de nos textes bibliques, un passage que je n'ai pas besoin de vous présenter, ce qui ne signifie pas que nous le connaissons bien, mais c'est un passage suffisamment représenté pour que je vous le livre hors contexte. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 35. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà, frères et sœurs, 5 textes bibliques pour nourrir notre méditation ce matin, et je vous invite maintenant à prendre votre recueil de chants Louange et prière pour que nous chantions le cantique 400, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Levons-nous pour chanter Dieu.
Chef de ma foi.
Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Au contraire, rends-nous disponibles pour une rencontre nouvelle avec ton évangile. Sous d'autres lumières, sur d'autres musiques, d'autres rythmes. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit, nous soyons prêts à partir à ton appel. Chers frères et sœurs, les anges ne sont pas vraiment en odeur de sainteté chez nous. Il n'est qu'à voir le nombre de pasteurs libéraux venus ce matin, sachant que j'allais dire quelque chose sur les anges, pour savoir qu'ils sont là non pas pour entendre un discours édifiant sur les anges, mais par souci de me voir chuter comme l'ange dans l'éclair. Il faut dire que la Réforme n'a pas été très tendre sur les anges et que la Réforme a copieusement fait le ménage pour rendre la foi chrétienne un peu plus crédible. Cela n'est pas simplement le fait du XVIe siècle. Au XXe siècle, en 1937, le théologien Gerhard Spinner écrivait « La réalité des anges est problématique. Leur influence est nulle. Quant à des révélations sur leur existence, nous n'en voyons aucune. » Bien. Je pourrais donc m'arrêter là et passer à l'ordre du jour. Pourtant, force est de constater que les anges sont une réalité constante parmi les religions, notamment les monothéismes. Et les auteurs bibliques, ne rechignent pas à convoquer les anges tout au long de leurs écrits, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'aurais pu vous lire beaucoup plus de textes, bien sûr. Seulement voilà, de nos jours, les anges posent de sérieux problèmes de crédibilité à la foi chrétienne. À quoi cela tient-il ? C'est très simple. C'est que des petits joufflus tout mignons comme ceux que nous avons là-haut, ou des êtres ailés, nous n'en rencontrons jamais au coin de la rue. Ceci étant, je trouve que cela n'est pas un argument, parce qu'on n'en trouve pas non plus dans la Bible, des anges comme ça. Dans la Bible, les anges ne sont pas des espèces de chauves-souris métaphysiques, des sortes d'êtres surnaturels munis d'une paire d'ailes qui se poseraient sur notre épaule pour nous dire ce qui est juste. Ce sont des individus qui ont une fonction particulière, celle d'être porteurs d'un message. Maléar, en hébreu, qui a donné angelos en grec, angelus en latin, ange en français, c'est le messager. Mais il est notable que nos traductions françaises réservent le mot ange à chaque fois qu'il est question de l'ange de l'Éternel. Cela signifie qu'à chaque fois qu'il est question d'un messager au sens d'un facteur, d'un ambassadeur, d'une estafette, de tout porteur d'un message dont l'expéditeur n'est pas Dieu lui-même, la traduction est « messager ». En réalité, ce sont des personnages de même nature. Et c'est là une source de confusion peut-être dans notre esprit, de distinguer dans leur nature les messagers de Dieu d'une part, les messagers de David d'autre part, par exemple. Ce sont des individus de chair et d'os qui vont se caractériser non par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils font. Et première observation que je vous propose auprès d'Agar, la mère du premier enfant d'Abraham. Ce que fait l'ange ici, c'est d'interpeller Agar qui vient de s'arrêter, lasse, prête à laisser mourir Ismaël, son enfant, laisser mourir de soif. Agar est résignée, elle a accepté docilement, visiblement, l'exécution prévue par sa rivale Sarah. Mais voilà, un ange s'adresse à elle et l'interroge. « Qu'as-tu ?» L'ange l'interroge sur sa vie, sur sa qualité de vie. C'est une vie, ça ? Se laisser mourir ? Comme cela, sans rien faire, sans réagir. Alors comme cela, on baisse les bras à Agar. Ça y est, c'est fini. On ferme le rideau. L'ange l'interroge pour qu'elle fasse le point sur sa vie, pour qu'elle y réfléchisse au lieu de se laisser aller au désespoir. L'ange secoue la conscience d'Agar. Il la met en demeure de réagir. Alors, quoi pour toi, littéralement ? Analyse un peu ce dont tu disposes. Eh oui, il y a déjà cet enfant là-bas, et il a besoin de toi. Et puis, il y a aussi la responsabilité que tu as vis-à-vis de cet enfant. Tu vois, tu n'as pas rien à garder. Il y a pour toi la vie de cet enfant, et il y a aussi ta responsabilité. Et l'ange lui dit « Ne crains pas ». Il aurait pu ajouter « Crois seulement ». Fais un peu confiance, relève-toi, je te ressuscite. Prends l'enfant par la main, prends ta responsabilité en main et fais confiance à l'Éternel. Et vous aurez de l'avenir tous les deux. Vous aurez un avenir dès que tu auras lâché la fatalité. Dès que tu seras libéré de cette obsession que tu dois mourir parce que quelqu'un te l'a dit. Et tu ouvriras les yeux sur ce que t'offre la vie. Et Agar ouvre les yeux et elle voit un puits d'eau. Ce puits n'est pas apparu par magie. Ce puits n'est pas sorti de terre sous l'action de l'ange. Il était là. Mais elle ne le voyait pas. Elle ne le voyait pas parce qu'elle n'en voulait pas. L'ange a interrogé Agar sur sa qualité de vie et le courage de vivre a été ressuscité. Et elle donne à boire à son enfant. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on pourrait se dispenser d'anges qui vont interpeller ceux qui n'ont plus le goût de vivre ? Pensez qu'on peut vraiment se dispenser d'anges qui vont interpeller ceux qui ont décidé d'abandonner la partie ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine quand même d'avoir quelques anges qui nous font réagir sur ce que nous vivons ou sur ce que nous ne vivons pas d'ailleurs ? Des anges qui nous demandent si nos vies, si ce que nous vivons est vraiment une vie ? Alors on me rétorquera que le messager de Dieu appelle du ciel. La voix de l'ange vient du ciel. Et que nous sommes donc en pleine fantasmagorie, et que ce n'est pas vraiment opérationnel dans la vraie vie, celle où nous sommes. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui se passe avec Abraham sur le point de sacrifier son fils Isaac. La voix de l'ange vient du ciel. Certes, mais peut-être serait-il intéressant d'entendre cette voix qui vient du ciel dans sa langue originelle, l'hébreu. Le ciel. Il faut dire que parfois, les traductions ont quand même le chic pour prendre la Bible au pied de la lettre. et d'être plus fondamentaliste que les fondamentaux eux-mêmes. Le mot hébreu qui est traduit par le ciel, c'est Shamaïm. Les hébraïsants savent que c'est un mot pluriel, avec le « im » à la fin. Donc c'est ce mot qui est traduit par ciel ou cieux, puisque c'est un mot pluriel. Mais le pluriel de quoi au juste ? Le pluriel du mot « sham ». « Sham », ça ne veut pas dire le ciel. « Sham », ça veut dire « là ». Ici. Alors vous comprenez l'embarras des traducteurs. « Là » au pluriel, « ici » au pluriel. Comment on traduit ça ? C'est « là » et « là ». Eh bien oui, c'est « au-delà ». Le ciel, c'est effectivement ce qui est « au-delà », ce qui n'est pas « juste là », « juste dans ma main ». Le ciel, c'est aussi ce qui est par là et par là, et là. Ce n'est pas la peine d'atteindre la stratosphère pour toucher le ciel du doigt. Le ciel peut être déjà là et puis là aussi, un peu plus loin. Bref, pour ma part, je trouve que le texte hébreu fait redescendre les anges sur terre. Simplement, il les place au-delà et pas dans l'immédiat, dans le juste là. Comme s'il n'y avait aucune distance entre l'ange et moi. Au contraire, l'ange, c'est celui qui met de la distance. C'est celui qui me fait voir au-delà de mon regard habituel, au-delà de ce que je pense, de ce que je crois, de ce que je dis. L'ange est au-delà de nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il est une figure divine intéressante, une figure de l'absolu, une figure de l'ultime. Hé, Abraham! Réveille. Sors de ton rêve en forme de cauchemar. Libère-toi de ton obsession, de ton fanatisme, de cette idée mortifère que tu as en tête et qui sature ton imaginaire. Sors de là. Sors de ce corps. Sors de cette pensée malsaine. Et Abraham sort de sa torpeur. Il se réveille. Oui, me voici. Il répond. Et lui aussi, il ouvre les yeux. Sur au-delà de ce qu'il projetait sur ses paupières. Et il voit un bélier qui pourrait être sacrifié en lieu et place de son fils, de son unique, de celui qu'il aimait. Et vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on pourrait se dispenser d'anges qui vont s'efforcer de sortir tel ou tel de son projet mortel, voire suicidaire ? Pensez vraiment qu'il faudrait laisser faire les massacres quand on peut intervenir d'une manière ou d'une autre. Pensez qu'il faut mettre fin à tous les ministères d'ambassadeurs, par exemple. Pensez que Kofi Annan n'a vraiment rien de mieux à faire. Pensez qu'il faut vraiment laisser les truands, ceux qui ont un projet pervers qui va défigurer l'humanité, quand on peut intervenir d'une manière ou d'une autre, en aidant la personne en question à sortir de ces illusions malsaines dont elle se berce. Alors on me dira, mais pourquoi nous ? Pourquoi moi ? N'y a-t-il pas des anges officiels pour cela ? Et puis, chacun de nous n'a-t-il pas son ange gardien ? Eh bien non, il n'y a pas d'ange officiellement ange. Il y a des personnes qui, en fonction des circonstances, peuvent assumer ce rôle, non par désir, mais parce que la question de l'être est en jeu, et que si ces personnes ne portent pas la question de l'être face à ceux qui la menacent, l'humanité recule. Des anges gardiens. Est-ce un ange gardien qui est promis à Moïse, au peuple et au peuple hébreu ? Est-ce un ange gardien qui est promis là dans le texte que nous avons lu ? Un ange gardien au sens d'un garde du corps, en quelque sorte. Un garde du corps qui évitera à Moïse tout souci, mais qui évitera aussi toute révolte du peuple, qui lui évitera la guerre contre les Amalécites, qui lui évitera de mourir au suprême déshonneur, avant d'entrer en terre promise. Certes, un ange peut protéger notre route, c'est ce que dit le texte biblique, mais en étant le gardien de notre mémoire, ou le gardien de la mémoire plus largement. En maintenant vives les paroles, les paroles qui font vivre, les paroles qui permettent de préserver la liberté. Par exemple, ces paroles que Dieu confie à Moïse pour le peuple hébreu, pour nous tous, pour rester libre hors du pays d'Égypte. Ces 10 paroles transmises pour être vraiment libre. L'ange est gardien lorsqu'il porte en lui la mémoire de la promesse et qu'il peut ressusciter cette promesse quand elle a disparu de notre horizon de préoccupation. Alors l'ange s'évertue à ce que la bénédiction, le souvenir de la bénédiction, fasse à nouveau surface. L'ange la sauve de l'oubli. Et ce qui était un problème insurmontable devient juste un sujet à traiter. Les fameux ennemis métaphoriques d'Israël s'évanouissent dans les brumes des faux problèmes et laissent place à un monde autrement plus vivable que ce que nous craignions jusque-là. Pour autant, n'en faisons pas trop avec les anges. Je veux dire par là qu'il ne faudrait pas concevoir les anges comme des êtres tout-puissants. L'ange de l'Éternel a beau se mettre en travers du chemin de Balaam, celui-ci passe outre, il ne l'aperçoit même pas. L'ange est incapable de contraindre Balaam à quoi que ce soit. C'est l'ânesse dont nous avions vu lors de la fête des rameaux qu'elle est une figure de l'humanité, puisque le petit de l'âne, comme le petit de l'homme, doit être racheté à sa naissance. C'est donc l'ânesse, la métaphore de l'humain, du véritable humain, qui perçoit sa présence et qui va réagir. L'ange n'a donc pas la possibilité de forcer le destin, comme Pilate n'a pas la possibilité de sauver Jésus en dépit du fait qu'il le déclare innocent de tout crime. L'ange ne peut pas être autre chose qu'un messager. Dans le livre de l'Exode, nous entendons qu'il ne peut pas pardonner non plus. Ce n'est pas son rôle. Il n'a pas la capacité pour ça. C'est un porteur de la question de l'être. Il peut essayer de contrarier notre nature, il ne peut la contraindre. Il ne peut pas écrire l'histoire à notre place, il ne peut pas empêcher à coup sûr les tentatives de suicide, comme aucun ange. Pas même le maire qui avait pourtant essayé n'aurait pu contraindre le commandant du bataillon de la division d'Eisreich à ne pas raser le village d'Oradour-sur-Glane et de faire 642 victimes il y a tout juste 68 ans. Cela n'a rien d'une consolation pour toutes les fois où nous échouons. Toutes les fois où nous échouons à convertir le barbare, à l'ouvrir à une autre réalité que son délire. Lorsque nous échouons à sortir un ami du désespoir, lorsque nous échouons à ramener quelqu'un à de meilleurs sentiments. Ce n'est pas une consolation, cette histoire de l'ange incapable de contraindre, tout juste capable de contrarier. Ce n'est pas une consolation, c'est un fait. L'Éternel n'est pas tout-puissant et nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Alors, ne nous accablons pas trop vite lorsque nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous nous étions fixés comme objectif. Pour autant, si nous ne pouvons pas toutes choses, nous sommes des êtres capables de certains accomplissements. Et lorsque M. Gabriel fut envoyé dans un petit village inconnu, un petit village obscur de Galilée, un village qui ne figure même pas sur les cartes, il y avait là une femme qui n'avait visiblement pas beaucoup d'idées sur ce qu'allait être son avenir. Elle était fiancée à un homme, mais elle dit ne pas connaître d'homme. Je ne sais pas trop que faire de son homme. Et la voilà qui est troublée. Troublée par la venue d'un homme, et c'est intéressant d'entendre le nom de cet homme en hébreu. Gaber, ça signifie viril. Il faudrait quasiment traduire par le fait que c'est un mec qui vient la voir et qui la salue avec une grâce singulière, elle qui ne connaissait pas d'homme. Mais parce que l'ange renvoie à l'au-delà, parce qu'il nous aide à passer les limites naturelles qui nous empêchent de poursuivre notre route, parce qu'il nous aide à les transgresser, ces limites naturelles, parce qu'il nous aide à prendre les choses en main, eh bien, Gabriel parvient à ressusciter une forme de désir chez Marie. Il ressuscite peut-être chez elle cette fibre maternelle qui avait été peut-être mise en veilleuse. Il ressuscite chez elle en tout cas le désir de vivre et le désir de donner la vie et de la donner en abondance. Alors évidemment, la tradition a fait de cette scène la scène de référence en matière d'angélisme. Et parce que l'angélisme est devenu de nos jours une manière de dire de quelqu'un qu'il est bon, avec un B comme dans cacahuète, on attribue à cette scène un caractère à la fois religieux, à cause de la mariologie qui en a découlé, et mièvre, parce que ça découline de bons sentiments. Et qu'avec des scènes comme ça, on en vient à parler de la bonne mère. Comme le disait notre organiste Jean-Dominique Pasquet, il faut sauver les anges de l'angélisme. Parce que l'ange n'est pas un personnage religieux. Et l'ange ne fait pas dans le religieux. L'ange s'adresse à notre être pré-religieux. Il est porteur des préoccupations, ces préoccupations fondamentales qui précèdent la religion. La vie, la survie, l'identité, la mémoire, le désir. Toutes ces questions qui, effectivement, seront assumées par la religion, mais pour les penser à un niveau universel. Mais ce n'est pas cela qui intéresse l'ange. L'ange s'intéresse à la manière dont l'être va entrer en relation avec ce qui est, avec nous. L'ange s'intéresse à la manière dont l'être va s'incarner. Comment l'être va devenir corps, chair, et pas simplement rester un bel idéal, une belle formule. L'ange va essayer d'établir ou de rétablir le contact entre l'être et ce qui est pour redonner de l'ampleur à notre manière d'être, pour nous donner peut-être aussi de nouvelles possibilités d'être, pour nous faire devenir fils de l'Éternel, comme le dit ce Gabriel. Et l'ange le fait en s'adressant à ce qu'il y a de plus humain en nous, ce qu'il y a derrière le vernis religieux, ce qu'il faut retrouver sous les mots que la tradition a complètement cadenassés dans des formules qui ne sonnent guère que creux à nos oreilles. Le Saint-Esprit, notre capacité à nous mettre en relation dès lors que nous faisons face à l'Éternel, à ce qu'il y a de plus ultime en nous. La puissance du Très-Haut, en grec la dynamis du Père qui est dans les cieux, c'est le dynamisme généré par le fait de s'ouvrir à l'au-delà de nos rêves, de nos angoisses aussi. La possibilité de donner à notre vie une ampleur qu'on ne soupçonne jamais tant qu'on s'en tient à nos propres suffisances. Et c'est ici, dans cette dynamique, ce dynamisme, cette dynamisme du Père Céleste qui recrée la possibilité d'une relation à plus grand que nous, que surgit le désir. C'est ici que se joue la résurrection du désir véritable, celui qui nous donne des ailes du désir. Arrive aussi le moment où l'ange doit quitter le paysage, s'effacer, pour laisser place à l'espérance ressuscitée, ne pas prendre la place, ne pas saturer l'imaginaire, laisser à chacun le soin d'être sujet de sa vie. Parce que qui veut faire l'ange et le rester fait la bête. L'ange qui s'attarderait sur lui-même pour se faire adorer devient un démon. Il est donc temps de dire Amen.